Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi et demi, 12h30. Bonjour à tous. Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. La très forte baisse du chômage l'année dernière. 480 000 demandeurs d'emploi en moins en un an. Est-ce une baisse solide? Est-ce une baisse significative? Il faut dire que la période est exceptionnelle. Je poserai ces questions à Emmanuel Duteil. Pas de transport en commun après 20h ce soir à Brest. C'est une réaction de protection des chauffeurs de bus face aux scènes de guérilla. Je pèse mes mots dans certains quartiers. On sera en direct avec un policier. Florent Pagny a choisi la transparence. Il annonce sur Instagram, dans une vidéo, avoir un cancer au poumon. Florent Pagny qui décide donc d'être transparent. Est-ce que c'est important? Est-ce que cela aide les personnes à accepter la maladie, à mieux se battre? Je poserai ces questions à un cancérologue qui sera en direct avec nous. La présidente de l'Académie des Césars sera également dans Europe Midi, quelques heures seulement après l'annonce des nominations. Et puis la météo, la tendance avec vous Anissa Haddadi, avec encore beaucoup de grisailles. Hein.
Oui, comme hier, hein, Romain, ce sont les régions situées au nord de la France qui seront les plus touchées par ces nuages. Un peu plus d'éclaircies quand même entre la Bretagne et la Franche-Comté. Dans le sud, c'est toujours le grand soleil. Côté thermomètre, c'est comme dans le ciel, on aura une grande différence entre le nord et le sud.
Merci beaucoup Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Forte baisse donc du nombre de demandeurs d'emploi au quatrième trimestre 2021, le dernier trimestre de l'année dernière, moins 5,9%. Cela représente 208 500 chômeurs en moins sur un an. La baisse est record, Emmanuel Duteil. Hein, bonjour.
Bonjour.
Moins 12,6%.
Oui, vous savez quoi? Le nombre de demandeurs d'emploi est même au plus bas en France depuis le troisième trimestre de 2012. 2012, ça veut dire que ça fait 10 ans. La crise Covid a été plus qu'effacée, même si le mois de décembre est moins bon. Ces chiffres trimestriels confirment le dynamisme actuel du marché de l'emploi. Donc pour répondre à votre question, c'est une baisse solide qui pourrait en plus se poursuivre. Autre point extrêmement important, cette amélioration profite très nettement aux plus jeunes. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans a reculé en France métropolitaine de près de 18%. C'est en Corse et dans les Pays de la Loire que le chômage a le plus reculé, si on regarde là seulement les chiffres du dernier trimestre. Alors pour le gouvernement, bien évidemment, ce fort recul du chômage arrive à point nommé. En plus, on n'aura pas d'autres publications trimestrielles d'ici à la présidentielle. Malgré une crise historique, l'exécutif pourrait ne pas être loin de l'objectif fixé de 7% de chômeurs d'ici à la fin du quinquennat. Et c'est bien pour cela que ces derniers mois, il a accéléré la formation, le contrôle des chômeurs ou la réforme de l'assurance chômage.
Emmanuel Duteil, merci beaucoup Emmanuel. 12h33, les Brestois privés de transport en commun ce soir à partir de 20h. À cause de qui? À cause de délinquants qui, dans certains quartiers dangereux de la ville, tirent avec des mortiers de feu d'artifice sur des bus et des tramways. Les chauffeurs n'en peuvent plus. Wilfried de Villers avec nous. Bonjour Wilfried.
Bonjour.
Racontez-nous ce qui se passe.
Eh bien, hier soir, ce sont les quartiers de Bellevue et de Kéranrou qui ont été le théâtre de ces violences. Un bus et un tramway pris pour cible. Il n'y a pas eu de blessés. Cela fait une semaine que de telles scènes secouent la ville bretonne. Tout est parti de l'interpellation de 8 personnes dans le cadre d'une opération anti-stupéfiant mercredi dernier. Le lendemain, 2 voitures sont incendiées dans le quartier de Pontanezen. Quelques jours plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche, un tram est arrêté par des barrières placées en travers des voies. Il est ciblé par des tirs de mortiers d'artifice, contraignant les 30 passagers à quitter la rame. Presque au même moment, les pompiers interviennent sur un incendie de scooter. Arrivés en renfort, plusieurs équipages de policiers sont pris à partie par une vingtaine de personnes cagoulées, masquées. Les transports en commun sont interrompus une première fois dimanche et ils arrêteront donc de circuler à partir donc de 20h ce soir.
Merci beaucoup Wilfried. Tramways arrêtés, passagers obligés de descendre. Éric Kerbrat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire départemental unité SGP Police à Brest. Hein. Des chauffeurs qui décrivent ces scènes de guérilla, et puis on vient d'entendre les informations et le récit de Wilfried de Villers. C'est véritablement ça, hein, scène de guérilla.
C'est une vérité, cette scène de guérilla s'est reproduite deux fois cette semaine, ou quasiment une semaine, hein, mercredi soir et samedi soir, par un groupe d'une quinzaine, vingtaine d'individus du quartier de Pontanezen à Brest.
Tout part du trafic de drogue?
Alors c'est parti sur un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de Brest.
Ouais.
Et les individus ont pris la fuite et sont entrés dans l'immeuble, ont séquestré une maman et sa fille.
Ah oui. Et voilà ce que ça donne. Comment vous comptez rétablir l'ordre ?
L'ordre pour une DGP police, il faut des renforts de force mobile, on va dire, très très rapidement. Et il faut également un renfort de personnel, de policiers sur la circonscription de Brest. Nous sommes en manque d'effectifs. On voit que ça part de Pont-à-l'Aisne. Aujourd'hui, ça glisse sur d'autres secteurs de Brest qui sont un peu moins sensibles, mais sensibles quand même. Donc il faut être partout de jour et de nuit. C'est important de le préciser. On doit occuper le territoire à sa conception à tout moment. Et on doit être partout pour la sécurité des citoyens.
Partout, de jour et de nuit. Il y a un témoignage à lire dans le Télégramme, témoignage d'un habitant de ce quartier dont vous nous parlez, de Pont-à-l'Aisne, qui dit qu'il se sent comme un prisonnier chez lui qui n'a commis aucun délit. Son crime, ne pas être assez riche, dit-il, pour pouvoir quitter cet endroit. Il subit ce qui s'y passe. Qu'est-ce que vous lui dites ?
C'est un quartier qui pourrait faire bon vivre sans quand il y a un petit groupe de jeunes qui perturbent ou délinquants qui perturbent ce quartier. Voilà, nous ne sommes pas encore dans un quartier de non-droit. La police est présente comme sur l'ensemble de Brest. On y restera. On sera vigilants, mais faut protéger des gens. Nous protéger pour les interventions, parce que c'est assez compliqué.
Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que seuls quelques-uns pourrissent, comme dans beaucoup de quartiers, la vie de tous les autres habitants.
Évidemment, c'est comme beaucoup de grandes villes en France ou métropoles, c'est des groupes, quelques groupes qui perturbent, ou très peu, enfin, des petits groupes qui perturbent les cités.
Merci beaucoup Eric Kerbrat, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Le livre Scandale sur ce qui se passe dans des maisons de retraite, ça vous fait beaucoup réagir, je le sais. Le directeur général du groupe Orpea va être entendu par le gouvernement. Mauvais traitement, recherche de profit au détriment des résidents et des clients de ces maisons de retraite. On est avec Christine Pires-Beaune. Bonjour Christine Pires-Beaune.
Bonjour.
Vous êtes députée socialiste du Puy-de-Dôme. Je voulais vous avoir dans Europe Midi. Merci d'avoir répondu positivement parce que vous proposez que les députés aient un droit de visite dans les maisons de retraite, comme ils en ont un pour ce qui concerne les prisons. Les députés, on le sait assez peu, les députés ont le droit d'aller dans une prison 24 heures sur 24, aller vérifier ce qui s'y passe. Et vous voulez ce même droit pour les maisons de retraite. Expliquez-nous.
Alors, nous avons ce droit pour les prisons, mais nous l'avons aussi pour les établissements psychiatriques, en fait. Et donc l'idée, c'est de l'étendre, ce droit, aux établissements sociaux et médico-sociaux, donc notamment les EHPAD. Et ça nous permettrait de jouer notre rôle finalement, qui est aussi de contrôle. Aller à l'improviste, rentrer dans un EHPAD à l'improviste, c'est pas du tout la même chose que d'aller rendre visite au directeur en prenant rendez-vous, ce que nous faisons déjà, évidemment. Hein. Enfin, moi, je suis allée dans pas mal d'EHPAD de ma circonscription depuis 10 ans, c'est pas la même chose que de pousser une porte à l'improviste, encore une fois, et de pouvoir aller partout, évidemment, dans cet établissement.
Effectivement. Et vous pourriez découvrir quoi ?
Je pense qu'on pourrait découvrir, malheureusement, certaines situations qui sont décrites, je suppose, dans le livre que je n'ai pas encore lu, que j'ai vers moi, mais que je n'ai pas encore lu. Et je pense qu'on pourrait aussi découvrir de très belles choses et aussi le dire, parce que je voudrais surtout pas qu'on généralise.
Bien sûr.
Ce qui est dit dans cet ouvrage.
Ça veut dire que vous souhaitez que les maisons de retraite soient mieux contrôlées en réalité, parce que c'est
Exactement.
Vrai, elles ont un côté fermé, mais c'est souvent fermé. Alors, pour le bien des résidents, parce que certains perdent la tête et ne doivent pas sortir. Mais effectivement, il faut sonner pour rentrer dans certaines.
Oui, tout à fait, et y compris aussi dans certains établissements qui accueillent des personnes handicapées, par exemple. Je pense qu'il est de notre rôle, en tout cas, de s'assurer que ces personnes vulnérables, parce qu'il s'agit de personnes vulnérables, alors certes, elles ne sont pas privées de liberté au sens où le sont des prisonniers ou des patients hospitalisés dans des hôpitaux psychiatriques qui peuvent être effectivement fermés à leur chambre avec des chambres fermées, mais elles sont vulnérables. Et à partir de là, quand vous avez des personnes vulnérables, qui plus est âgées, c'est bien d'avoir ce contrôle.
Merci beaucoup Christine Pires-Beaune, députée socialiste du Puy-de-Dôme, d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué ce que vous souhaitez mettre en place. Merci beaucoup et bon après-midi à vous. Il est l'un des plus célèbres chanteurs de France. Il a choisi Instagram et la transparence pour annoncer qu'il a un cancer et qu'il a décidé de se battre contre ce cancer au poumon. C'est Florent Pagny, on en parle dans un instant. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h42, Florent Pagny. Il est connu des jeunes comme des plus âgés grâce à The Voice sur TF1. Florent Pagny qui est obligé d'interrompre sa tournée pour soigner un cancer des poumons avec une tumeur inopérable. Il va débuter une chimiothérapie et des rayons X. C'est lui qui l'a annoncé hier soir dans une vidéo sur Instagram.
Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc, je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X. C'est ce qui explique la raison pour laquelle je ne pourrais pas honorer mes engagements.
Voilà, c'était hier soir, ça a été diffusé hier soir sur les réseaux par Florent Pagny. On est en direct avec le docteur Christophe Massard. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes professeur en cancérologie au centre Eugène Marquis de Rennes. Florent Pagny a choisi de communiquer sur sa maladie. C'est assez nouveau, hein. Il y a eu Jean-Pierre Pernaut. C'est important, ça change l'image de la maladie, c'est important pour les autres malades. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Alors, je pense que c'est évidemment à chaque personne de décider si elle souhaite évoquer ou non sa maladie. Mais c'est clair que quand quelqu'un de célèbre, une personnalité prend cette décision, c'est un geste très courageux qui est important de saluer. Que pour nous, cancérologues, ça brise un peu le tabou.
Oui.
Ça montre, même si on sait que ça peut arriver à tout le monde. Et puis ça, je pense, peut donner aussi de l'espoir et permettre aussi aux personnes d'échanger avec leur famille ou avec leurs amis, peut-être quelque chose qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas eu cette nouvelle de quelqu'un de, entre les plus connus.
C'est assez nouveau en France. Hein.
Alors vous avez raison, en France, ce n'est pas très classique, ce n'est pas notre
oui.
culture.
Non.
Vous savez, dans les pays anglo-saxons, c'est assez fréquent. Donc on a l'exemple d'Angelina Jolie hein, qui, elle, a parlé du fait qu'elle avait une mutation qui prédisposait au cancer. Et de mon point de vue, je pense qu'elle a fait beaucoup pour la médecine puisqu'elle a permis de rendre quelque chose de connu. Et je suis persuadé que les personnes ont pu parler en famille du cancer, des formes héréditaires de cancer. Et donc, encore une fois, je pense que c'est un vrai plus.
Quelle est l'importance de la force psychique du patient dans la bataille contre le cancer ? Parce que là, il dit qu'il va se battre avec sa compagne. On va se battre.
Alors c'est clair, alors souvent nous employons ces termes un peu guerriers. Mmh. Ce qui est clair, c'est que voilà, le traitement du cancer fait appel à différents types de traitements, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle les soins de support, les soins oncologiques de support. Et donc même si le psychisme n'influence pas, on va dire, ou pas d'une façon importante la course de la maladie, le fait d'avoir une famille, le fait d'être entouré, le fait de pouvoir mieux comprendre sa maladie, je pense que ça aide à mieux tolérer les secondaires, à mieux comprendre le type de traitement qu'on fait.
Merci beaucoup, docteur Massard. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, professeur en cancérologie au centre Eugène Marquis de Rennes. Il est 12h46.
Europe Midi. Romain Desarbres vous informe sur Europe 1.
Vladimir Poutine, Joe Biden. Vladimir Poutine qui a répondu ce matin à Joe Biden, qui le menace personnellement de sanctions financières. On parle de l'Ukraine, bien sûr. Le Kremlin a fait savoir ce matin que politiquement, s'il y avait ces sanctions, ce ne serait pas douloureux, mais ce serait destructif, disent les Russes. Affrontement donc au sujet de l'Ukraine que la Russie met sous pression en massant des troupes à sa frontière. On part à Kiev. Kiev, pour retrouver notre envoyé spécial Marion Gauthier. Et bonjour Marion, vous êtes à Maïdan, la place de l'indépendance, dans la capitale ukrainienne. Décrivez-nous l'atmosphère à Kiev et dites-nous dans quel état d'esprit sont les habitants, les Ukrainiens.
Écoutez, tout est très calme ici sur cette place enneigée, centre des manifestations pro-européennes de 2014. Les touristes baladent leur appareil photo et les riverains passent leur chemin imperturbable. Les regains de tension et les mouvements de troupes à la frontière devenus une triste habitude, explique Dimas. Ce trentenaire a été mobilisé 2 ans sur le front. Il se dit prêt à y retourner si nécessaire.
Il n'y aura rien de nouveau, rien ne va changer, ça recommence. Je n'arrive pas à comprendre ce que cherche vraiment Poutine. Il veut le territoire ukrainien, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Et s'il a l'Ukraine, ce sera quoi ensuite? Il se prend pour un roi?
La question pourquoi sur toutes les lèvres de ceux avec qui j'ai pu échanger, sans y apporter de réponse, Olga se résigne et fustige les querelles de politiciens bien forcés de vivre avec.
La seule tension qu'il y a, c'est surtout par ce qu'on voit à la télévision. Mais au quotidien, je ne ressens rien de particulier. Je vis comme je vis d'habitude. Tout est normal. Les gens sont plutôt optimistes. Mais si c'est nécessaire, les gens iront défendre leur patrie si quelque chose se produit. Personne n'abandonnera l'Ukraine comme ça.
La retraitée craint tout de même pour sa famille que des enfants perdent encore leur père, dit-elle. Signe d'une autre habitude ici, vieille de près de 8 ans, celle de vivre dans un pays en guerre.
Marion Gauthier, envoyée spéciale d'Europe 1 à Kiev. Merci beaucoup Marion. Il est 12h48, on revient en France. Je voulais qu'on parle d'immobilier. Écoutez bien, avec les nouvelles obligations en termes d'isolation, les propriétaires de logements alloués sont nombreux à les mettre en vente pour éviter d'avoir à payer des travaux de rénovation, souvent coûteux bien sûr. Élise Dangean avec nous. Élise, cela crée forcément des opportunités pour des petits malins, on va dire, qui rachètent ces biens à bon prix.
Oui, d'autant que ces biens énergivores sont nombreux. Ils représentent 17% du parc immobilier français, soit près de 5 millions de logements boudés des acquéreurs et délaissés des propriétaires, car l'ampleur des travaux fait peur malgré le dispositif d'aide mis en place. Aujourd'hui, seuls 30% des propriétaires d'une passoire énergétique envisagent de la rénover. 13% préfèrent vendre, selon la dernière étude de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Et pour le conseiller en gestion de patrimoine, Carl Toussaint Duvaste, c'est une aubaine pour tout investisseur.
Évidemment, il va jouer sur sa négociation du prix en arguant que le bien n'est pas aux normes énergétiques. Et lui, en revanche, dans son plan de financement, il va pouvoir intégrer éventuellement une poche de travaux avec une part déductible ou subventionnée par l'État, mettre en location un bien rénové, donc je dirais attractif, et qui va se valoriser mécaniquement, puisqu'on sait très bien qu'un bien immobilier qui est rénové est un bien qui prend de la valeur.
Autre argument de poids pour les investisseurs, plus un propriétaire tarde à vendre, plus l'enveloppe travaux va grimper, car les entreprises de rénovation énergétique qui croulent sous les demandes pourraient augmenter leurs tarifs, ce qui se répercutera inévitablement sur le montant de la vente.
Élise Dangean, merci beaucoup Élise. J'en connais qui vont aller regarder les petites annonces immobilières juste après Europe Midi. Il est 12h50, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, les nominations pour les Césars 2022 avec vous Marie Jiquel. Et puis on sera avec la présidente de l'Académie des Césars. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h52, révélation ce matin des nominations pour la 47e cérémonie des Césars qui aura lieu, on le rappelle, le 25 février à l'Olympia, en direct sur Canal+, évidemment, et sur Europe 1. Et ça, c'est une nouveauté. Marie Jiquel avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour Romain.
Le grand favori, le film qui est le plus favori, qui est le plus cité, c'est Illusion perdue. 15 nominations, dont la nomination pour le César du meilleur film et la nomination pour le César du meilleur réalisateur. Hein.
15 nominations, c'est assez énorme. Hein. À titre de comparaison, The Artist en avait 10. Les Illusions perdues, un succès public à l'automne. Un film vraiment soutenu par l'énergie de ses acteurs. Et c'est ce qu'a retenu l'Académie des Césars, hein, puisque la plupart du casting est nommé, dont Benjamin Voisin qui tient le premier rôle. Écoutez le producteur des Illusions perdues, Olivier Delbosque.
C'était quand même un pari pour la production et la mise en scène que le premier rôle soit tenu par un acteur qu'on avait presque jamais vu au cinéma. Mais Xavier avait tenu qu'autour, il y ait une vraie troupe, comme la tradition théâtrale, si vous voulez, avec des vrais acteurs. Et donc, c'est assez rare que dans des catégories, il y ait deux acteurs du même film qui soient dans la même catégorie. Je pense notamment à Vincent Lacoste et Xavier Dolan, à Jeanne Balibar et Cécile de France. Donc, ça récompense surtout l'effet et la volonté de troupe que Xavier a voulu autour de son film.
Deux autres favoris suivent, radicalement différents. Annette, le conte musical de Léos Carax, et Aline, le biopic très romancé sur Céline Dion, mené par Valérie Lemercier. Une sélection assez équilibrée qui tend vers le film social. On le voit avec Bac Nord, La Fracture et Les Olympiades. Et enfin, Romain, deux surprises. Titane, Palme d'Or à Cannes, qui ne comptabilise que 4 nominations. Et l'absence du film qui a le mieux marché en France avec plus de 2 millions de spectateurs, Kaamelott.
Merci beaucoup Marie Jiquel. On est avec Véronique Kella, présidente de l'Académie des Césars. Bonjour Véronique Kella.
Bonjour.
Alors je sais que vous avez un devoir de réserve bien sûr, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette sélection des Césars 2022?
Ah bah déjà, on peut vous dire qu'il y a beaucoup plus de films que l'an dernier, ne serait-ce que parce qu'il y a eu plus de jours pendant lesquels les salles de cinéma ont été ouvertes. Mais on sent aussi une très grande gourmandise à l'égard des Césars, puisque le taux de participation a été bien supérieur aussi à ceux des années précédentes, avec cette année un record, 67% de taux de participation. Et puis, on est très heureux de voir que parmi les trois premiers films, il y a aussi bien des films d'auteur que des films grand public qui sont mis en valeur et mis en évidence. Et enfin, je pourrais rajouter une petite cerise sur le gâteau. Dans la catégorie des meilleurs films, nous avons trois femmes qui sont meilleures réalisatrices. Et pour les Césars, vous savez que l'importance qu'on y accorde.
À vos yeux, dans ces 24 catégories, il y a une surprise ?
Oh, écoutez, il y en a toujours beaucoup, parce que comme vous avez pu le voir, il y a une bonne quinzaine de films qui ont été mis en valeur par une catégorie. Et donc, ça veut dire que c'est très étalé, ce n'est pas du tout le cas de figure où tout va sur un seul film. Il y en a trois qui se détachent, hein, c'est Valérie Le Mercier avec son film sur Aline. Il y a aussi Annette de Léos Carax et Les Illusions perdues de Xavier Giannoli.
En plus des remises de prix, il faut s'attendre à des moments forts, j'imagine. Hein.
Oh, bien sûr, nous allons voir déjà, nous sommes sûrs d'avoir Kate Blanchett à qui nous remettrons un César d'honneur. Et puis Daniel Thompson qui nous permettra de mettre en valeur quelqu'un qui a su s'illustrer aussi bien dans le cinéma d'auteur que dans le cinéma grand public. Et puis aussi des films beaucoup plus pointus comme ceux d'Audrey Divan qui a été décoré à Venise pour son talent sur... l'événement, et puis aussi nous avons notre maître des cérémonies, oui. Cette fois-ci, qui est Antoine Decaune. Ce sera la 10e occasion pendant laquelle il fera le maître des cérémonies du festival.
Voilà, c'était Véronique Kella, présidente de l'Académie des Césars. Les Césars, notez-le, hein, c'est le 25 février sur Canal+. Et c'est une nouveauté cette année sur Europe 1. Il est 12h56. Le temps avec vous, Anissa Haddadi. On l'a vu, c'est de la grisaille aujourd'hui. Hein.
Alors c'est très léger, mais ça a le mérite d'être là. Écoutez, j'essaye de trouver des bonnes nouvelles. Alors c'est en Bretagne, en Vendée, dans le centre, en Franche-Comté, que les éclaircies seront un petit peu plus nombreuses qu'hier. Dans le sud, rien à signaler, hein, pas de changement, c'est encore du très beau temps, un soleil radieux avec le retour du vent tout de même au bord de la Méditerranée. Quelques nuages bas aussi qui traînent, comme tous les jours, au bord de la Garonne. Et je vous ai gardé le moins bien pour la fin avec l'extrême nord, hein, la Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien, le long des frontières du Benelux, on a une couverture nuageuse importante encore aujourd'hui. Les températures, elles sont très différentes entre le nord et le sud, je vous le disais. 1 degré à Troyes et Orléans, 2 pour Dijon et Belfort, 3 degrés à Lyon cet après-midi, 4 pour Paris et Rennes, 6 degrés à Saint-Étienne et au Havre, 7 pour Clermont-Ferrand et Niort, 10 degrés à Brive-la-Gaillarde, 11 à Bordeaux. Et là, voilà la grande différence avec le nord, puisque nous aurons 17 degrés sous le soleil de Perpignan.
Voilà, un très léger mieux aujourd'hui. Merci beaucoup, Anissa. 12h57, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, c'est La France bouge. Et nous, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Très bon après-midi sur Europe 1.